Mais on va commencer par l'interview avec Carmine Maringola. Je laisse la parole à Thomas pour un petit résumé de la pièce qu'on a vue donc hier avec Thomas.
Oui.
On t'écoute.
Oui, oui, c'était un énorme plaisir. Dans Re Chichinella, Emma Dante déploie une fable baroque et jubilatoire où le grotesque et le sublime s'entrelacent pour sonder les abîmes humains. Inspirée de la Papala de Giambattista Basile, la pièce raconte l'histoire absurde d'un roi tourmenté par une poule nichée en lui, le condamnant à pondre des œufs d'or au profit d'une cour avide et hypocrite. Mais au-delà de ce récit loufoque, Dante tisse une parabole universelle sur la vanité du pouvoir, l'avidité humaine et les contradictions de notre condition. Avec son langage scénique intensément physique, c'est réglé au millimètre près, la metteuse en scène sicilienne transforme le corps en un outil narratif puissant, chaque geste devenant porteur de sens. Entre satire mordante et poésie sauvage, Re Chichinella offre une fresque où la farce côtoie la tragédie dans un éclat de rire autant libérateur que cruel. Emma Dante signe ici une œuvre lumineuse et dérangeante, un théâtre total qui invite à rire, rêver et réfléchir sur nos fragilités humaines.
Merci Thomas. Alors moi je commence, Carmine, avec la première question. Donc cette pièce fait partie d'une trilogie inspirée du Conte dei Conti de Giambattista Basile, un auteur napolitain du XVIIe siècle. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi Emma Dante a décidé de travailler sur ces textes?
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Avec Emma, on a commencé à lire Le Conte dei Conti, il Conto dei Conti, come si dice, come dice in italien, di Giambattista Basile, parce que c'est surtout dans ma tradition. Je suis napolitaine, Emma elle est palermitaine, elle le connaissait très bien, mais j'ai profité qu'elle connaissait vraiment pas tous les histoires, les contes. Ils sont 50 contes, 10 contes pour chaque jour. C'est comme il Decamerone de Boccaccio, ça c'est un pentamerone. Ce sont 5 journées et à chaque journée, il y a 10 contes. Et il a trouvé la génialité de cet auteur. Il était les premiers en Europe qu'il a pris les fables, les contes de la tradition orale et l'a mis par écrit. Et les sous-titres de son premier livre sur les contes, c'est l'entretenement pour les grands et les petits. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, des sexes, des dramatiques, des divertente, comment dire,
amusante,
très, très amusante, fou, totalement fou, et il est politiquement très scorretto, cioè totalement anti-woke, il y a des choses incroyables dans les pentamerone de Basile, et donc on est tombé dans cette lecture, et la première c'était la scortecata qui était sur la vieillesse, et après on a parlé des poupes des zucchero, sur la mort, sur les rapports entre les vivants et les morts, et après quand on a trouvé cette femme avec cet roi qu'il se trouve en poule dans les fesses.
En français, on peut dire le fondement.
Dans les fondements, on a compris la potentialité, non, théâtrale que cette histoire elle pouvait avoir. Et c'est l'histoire des poules dans les œufs d'or. Dans la fable originale, c'était pas une poule, c'était un canard. Mais on a choisi
une oie.
Un ocre, oui. Un oie, c'est pas un canard.
C'est pas un canard.
C'est pas un canard, un oie. Oui, un oie. Et, mais on a choisi les poules parce que on l'amène en tournée avec nous, donc c'était un peu plus simple de voyager avec un poule qu'avec un oie. Oui, on a trouvé dans ça la possibilité de parler de cette histoire et la folie de cette histoire. C'était loin des œufs d'or, mais de l'histoire de Basile, cet oie, il va terminer dans les fesses de le roi. Et là, il y a la génialité et la folie de Giambattista Basile.
Moi, j'ai envie de vous demander, comment vous avez-vous abordé la transformation physique et psychologique de votre personnage, le roi? Parce que vous jouez donc le roi avec cette poule. Vous passez par des états de souffrance, de grotesque et parfois même de tendresse. Comment vous avez réussi à passer de l'un à l'autre comme ça?
Oui, j'ai eu la chance surtout de travailler beaucoup avec Emma et elle a la grande capacité de faire sortir dans les comédiens tous l'émotion, tous les différents niveaux d'une représentation, et même dans une représentation comme ça, absurde, non? Même de penser d'avoir cette condition physique. Donc je suis parti dans la maladie. J'ai pas vraiment pensé d'avoir un pool dans mon corps, mais j'ai pensé à un cancer, non?
Un cancer.
Un cancer, une autre maladie. Donc je me suis inspiré à des personnes malades que j'ai connues, avec lesquelles je suis été dans les dernières périodes. Et sous ça, on ne pouvait pas perdre le côté humoristique. Donc on a joué sur des clowneries, sur un truc burlesque, mais maintenant les deux ou les trois niveaux. La tendresse, la maladie et l'humorisme.
C'est ça qui est complètement fou. Et il y a quelque chose de baroque dans cette pièce, c'est fondamental, mais en même temps il y a quelque chose de très contemporain. Et moi, les costumes et les attitudes des personnages, en particulier ceux de la cour, des courtisanes, évoquent parfois l'univers flamboyant de la scène drague. Il y a même un lip-sync. Selon vous, en quoi ces choix esthétiques enrichissent-ils la satire sociale et politique de la pièce?
Alors, avec Emma, on travaille vraiment beaucoup sur des improvisations. Et ici, on avait déjà les tests, on n'a pas vraiment improvisé tous, mais la partiture physique du spectacle, c'est pas mal improvisé. Et donc, un des comédiens, Samuel Salamone, c'est celui-là qui chante.
Qui fait aussi le médecin.
Oui, qui fait aussi le médecin. Il a eu une expérience de drag queen. Il a travaillé pas mal comme drag queen. Et donc, il est venu à les répétitions. Il a nous amené un costume de poule, un truc fantastique. On a tous levé. Mais dans ce costume, ils sont restés les fesses de cette dame, non? De cette fesse énorme. Et même cette joue chanter, de pas chanter, et donc c'est sur ça qu'Emma elle a pris, elle a volé cette chose que chaque comédien il peut donner à la représentation, elle prend, elle la transforme dans un trésor. Mais c'était pas pensé avant, il est venu pendant...
Oui, vous dites, on pourrait penser que tout est improvisé. Non, c'est au contraire, tout est hyper réglé, mais vous avez travaillé à partir d'improvisation.
Oui, non, pendant les spectacles, on n'improvise jamais, c'est interdit, on peut pas... Non, mais pendant les répétitions, on a beaucoup d'espace d'improvisation et ça nous aide à mettre beaucoup de nous, de nous comédiens dans les spectacles.
J'ai une question. Donc, dans Rec Kilnella, Emma Danta procédait donc à une réécriture du conte de Basile, La Papera. Bon, La Papera. Et donc, est-ce que vous pouvez me parler du procès, comment vous avez fait pour réécrire le texte? Parce que quand on lit les textes de Basile que j'ai lu hier soir et quand on entend votre texte, il y a une grosse différence. Comment vous avez procédé dans leur écriture? Comment Emma Danta a procédé?
Dans ce cas, c'était vraiment un travail très long parce qu'on a commencé avec les tests de Basile comme les tests. C'est un test sur l'invidia, comme c'est dit l'invidia.
L'envie,
les tests de Basile, l'envie. Donc, ce sont ces deux sœurs qu'ils trouvent cette papera, cette...
C'est toi
qui fait les offres d'or. Et là, les autres pauvres, qui habitent à côté de ces deux femmes, qui voient qu'ils commencent à devoir de l'argent et tout. Et ils demandent s'ils comprennent que la papera fait des offres d'or. Donc, ils l'apprennent. Mais chez les autres, ils ne font pas des offres. Ils font un monde de la merde, ils remplent toute la maison de merde. Donc, ils prennent cette papera et la tuent, torse l'école, comme c'est déjà, la jettent par la fenêtre. Et là, la fable pouvait terminer, mais là, Basile entre et là, il passe à un prince qu'il doit aller à la toilette, il fait son besoin, il n'a rien pour se nettoyer. Il prend cette papera, il la utilise pour se nettoyer et là, termine. Il fait un bando, si quelqu'un me libère de cette tremende histoire, il arrive, les deux sœurs, dit moi. Et la fable termine avec Felice e contenti, on dit en italien, non? tous contents.
Une fin heureuse.
Mm-hmm. Ouais, ouais. Et on a essayé de le faire comme ça. On a travaillé pendant un an et demi. Et après, on a quitté les projets. On a dit non. On n'avait pas la sensation qu'on avait des choses à dire avec cette. C'était sympa, tout comme ça, mais on ne trouvait pas la clé. Et c'était un été, on était en train de discuter des trucs, et on a pensé, c'était Emma, moi aussi, je suis allé avec elle. Pourquoi on ne commence pas dans la côté droit ? Cioè, on parle de cette roi, on s'en fout de l'île et l'olle, les sœurs, l'invidia. On pense à cette roi avec cette poule dans les coules et qu'elle continue à faire des soft d'or et sa famille. Ils veulent que les poules continuent à vivre et donc on peut jouer sur cette contraste, sur les rapports familiaux. Donc c'était vraiment très long. On avait vraiment quitté les projets. On avait même dit à des théâtres, on ne va plus les faire, on termine.
Lascia che io pianga di Handel. Nous sommes toujours en compagnie di Carmine Maringola pour parler de Re Quiquinella. Donc Carmine, dans cette pièce, Le Roi Poule, Re Quiquinella, on entend de la musique, on entend ces morceaux à la fin. On entend aussi Battiato aussi à la fin.
Oui.
Peut-être que c'est la dernière chanson, celle de Battiato. Et on entend aussi Bisogna Morire, une chanson du XVIe siècle.
Oui.
Que je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces choix ? Comment vous avez choisi ces... Comment Emma Dante a choisi ces musiques ? Et pourquoi, par exemple, ces morceaux-là qu'on vient d'écouter ? Pour moi, c'est tellement lié au film de La Sfontrie que je n'arrive pas à hier, quand je vous ai vu sur scène en train de mourir sur cette musique, il y avait, ça faisait une résonance. Est-ce qu'il y avait une intention? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ces choix musicaux?
Elle est partie quand on a commencé à travailler sur ce spectacle, sur la musique baroque. Donc c'est la musique de 1060 et surtout sur la musique napolitaine. On est parti sur Scarlatti. Et on avait 8 ou 9 musiques avec lesquelles on a travaillé pendant les workshops, pendant les répétitions. Et après, on a compris qu'on doit pas être comme ça légati, non? Tu sais, liés à Scarlatti, à la musique baroque napolitaine. On a seulement les premiers morceaux que c'est de Scarlatti. Et après, on est resté dans les périodes, sauf que Battiato, non?
Un retour en Sicile, surtout.
Oui, c'est un retour en Sicile. Et un auteur qui nous adore. Et on a trouvé des autres musiques qui étaient plus correspondantes à ce qu'il venait dans les travaux, comme La Pastacaglia della Morte, que c'est un morceau, que c'est un auteur, c'est anonyme. Cioè, il y a beaucoup d'attributions, mais ce n'est pas vraiment la vraie attribution. Fondamentalement, on ne sait pas si c'est quoi l'auteur de cette musique. Et on trouvait génial parce que c'est pendant un moment où toute la cour essaie de faire manger les rois. Donc, ils tentent les rois avec des spaghettis, de la mortadella, du jambon, des biscuits, les galets bretons. Et ils chantent « Il faut mourir ». Pendant qu'on mange, pendant qu'on chante, il faut mourir. Elle continue à dire, il faut mourir, bisogna morire, bisogna morire. Et donc ça, il nous a rapito, no? Il nous a pris. Et Lascia che io pianga est une chanson qu'on adorait avant de l'entendre dans les films de Lars von Trier. On adore Lars von Trier, donc c'était une parfaite liaison. Et donc on l'a choisi pour ça, et même pour la voix de Cecilia Bartoli qui la chante.
Non mais c'est bien, vous avez raconté un peu cette scène de banquet, elle est hallucinante cette scène de banquet parce qu'il y a quelque chose d'ambigu, ils se battent pour qu'ils mangent et lui bon, il mange tout et n'importe quoi, bon, alors les galets bretons, alors ça c'est magnifique, c'est vraiment, on ne mangera plus jamais les galets bretons de la même manière, mais voilà, il y a les galets bretons avec les spaghettis juste après.
La mortadelle,
après. Oui, et la mortadelle, et un truc, voilà, trop fort.
Et on sent tous les odeurs dans le public.
Oui, ça, c'est génial. Voilà, oui. C'est complètement fou. Et ce qui est hallucinant, c'est que donc, tout ça, c'est pour que le roi mange, parce que quand il mange, la poule pond un œuf d'or. Et il y a donc cette déperdition, en fait, de richesse. C'est-à-dire, ils sont obligés, finalement, de manger pour 15, pour finalement en obtenir qu'un seul œuf. Et il y a quelque chose d'ambigu. C'est-à-dire qu'il pourrait garder toutes ses victuailles, les rationner comme il faut, ne pas les dépenser et laisser le roi tranquille. Non, en fait, il faut à la fois dépenser beaucoup pour faire souffrir beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, non, c'est vrai, c'est intéressant. Et c'est vrai que... Il lui dit, cette cour, il pense qu'à danser, à manger, et il mange tout ce que j'ai dans mon palais. Et à la fin, les rois, ils ne mangent rien. Un olive, un petit biscuit. Il ne peut pas manger, il ne veut pas manger. Parce que
biscotte, c'est vraiment ça.
La fête biscottata, on dit en Italie que c'est un... typique biscotte très triste. Plus triste que... Tu es malade, tu manges une fête à biscottate, c'est ça. Et par contre, les autres, ils sont toujours pris dans cette orgie d'argent, de nourriture et tout ça. Et, donc pour moi aussi, c'est un moment très important du spectacle, c'est la clé du spectacle et le contraste entre les rois et sa famille.
Mais est-ce qu'il y a... C'est dans le conte de Basilée, cette histoire d'olive et de biscotte, ou
non,
c'est
non,
vous
non,
qui
non.
l'avez amené? Ok.
Non, ça c'est...
Parce que moi, du coup, j'ai pensé beaucoup à Épicure à ce moment-là, qui dit « Moi, je serais heureux avec juste un peu de pain et de fromage de chèvre. » Et il y a cette chose-là aussi, c'est-à-dire que la confrontation entre l'hédonisme d'un côté, qui est tout en consommation, et de l'autre côté, cette envie de frugalité et de sobriété qui finalement est la rédemption du roi, parce que...
Oui, oui, oui. Les rois abandonnent l'hédonisme. On le voit juste revenir dans cette époque quand il met son sa cape rouge. Mais effectivement, ça part beaucoup des morts, donc ces spectacles. Je trouve... Pardon, Thomas, je t'ai
coupé. Non, vas-y, fonce.
Oui, je fonce. Alors, donc, pour moi, vous parlez des clés de spectacle, et pour moi, je m'interrogeais sur la métaphore. Donc, les rois se retrouvent avec cette poule dans les fesses à partir du moment qu'il a utilisé pour s'essuyer les fesses. Donc, il a utilisé un animal mort, il l'a utilisé comme un objet. Et donc, c'est là qu'il y a une sorte de malédiction.
Oui.
Oui. Oui, et est-ce que...
Mais là, c'est ça, on l'a pris de Basile, et là, c'est vraiment la sfortuna, la malchance. C'est, tu sais, c'est des choses de la vie. Un moment avant, tu étais le roi plus héros du monde, fantastique, et il a un accident, parce que c'est un accident, il dit c'est un accident. Et...
Un accident au moment où il redevient humain comme nous.
Oui.
C'est le moment où il doit aller à la selle. Donc, il est comme nous, et quand il est comme nous, pan.
Dans la débolezza, non, dans les moments de majeure fragilité, quand tu es là, tu te fais de la caca, c'est un truc, les rois comme nous... Elon Musk, Trump, il l'a fait comme nous, cioè, on fait la cacca tutti alla même manière. Donc, et là, tu es dans ce moment de fragilité, entre cet accident, c'est la maladie, c'est la poule, et tout tombe.
Et moi, j'ai envie de vous demander, c'est une satire de la cupidité et du pouvoir, mais elle reste sans morale explicite. Parce que c'est ça autour de quoi on est en train de tourner depuis tout à l'heure. Et selon vous, comment le spectateur il peut interpréter cette absence de leçons clairement énoncées? Il n'y a pas de morale en fait.
Il dit qu'il n'y a pas une morale explicite.
À la fin.
Et donc,
on ne sait pas qui est le méchant, qui est le gentil. Tout le monde est méchant, tout le monde est à la fois... le roi est une victime, mais c'est quelqu'un qui s'est mal comporté.
Oui, non, on pense que la morale, la vraie morale, c'est le public qui l'apprend. On l'est strade, non, delle vie,
des chemins,
des champs, d'interprétation. Mais c'est vrai que quand le roi meurt et la poule sort... La cour arrive et l'appelle majesté. Donc pour la cour, c'est la même chose. C'est les rois, c'est la poule, c'est la même chose. Donc déjà là, il y a pas mal d'indications, même politiques.
Oui.
Tu as l'argent, tu fais les offres d'or. Pour moi, tu es mon roi, même si tu es un poule.
Ah, come ti inganni se pensi che gli anni non han da finire, è breve il gioire, i sani gli infermi, i bravi gli inermi, è un sogno la vita che parsi gradita. Vorrei tornare indietro per rivedere il passato, per comprendere meglio quello che abbiamo perduto. Viviamo in un mondo orribile, siamo in cerca di un'esistenza. La gente è crudele, è spesso infedele, nessuno si vergogna di dire menzogna, i giovani putti e gli uomini tutti, non vale il fuggire, si plachi l'ardire. Vorrei tornare indietro per rivedere gli errori, per accelerare il mio processo interiore. Ero in quinta elementare,
esistenza, fatta di giorni allegri e di continue esplorazioni e trasformazioni dell'io.
Deuxième morceau de la soirée, Passacaglia de l'artiste Franco Battiato. Nous sommes toujours en compagnie de Carmine Maringola pour parler de Re Chichinella.
Et moi j'ai une question sur la langue napolitaine. Elle ajoute une couche de richesse poétique, hein, parce que donc le spectacle est en napolitain. Et il y a vraiment une couche de richesse poétique qui sert la pièce. En tant qu'acteur, comment vous travaillez avec cette langue pour qu'elle soit à la fois expressive et compréhensible, malgré les sous-titres? Parce qu'en fait, on n'a parfois même pas besoin de les lire, en fait. C'est hyper compréhensible.
Mais vous avez de la chance en France, parce que vous avez les sous-titres. Quand on joue cette pièce en Italie, et on ne la joue pas à Naples, mais même à Naples, peut-être difficile, parce que ce n'est pas les napolitains contemporains. C'est un napolitain ancien, avec des mots très difficiles, anciens, que moi aussi j'ai dû étudier, et j'ai dû comprendre ce qu'il signifiait, et tout comme ça. Et donc, quand on la joue à Milano, on a débuté à Milano, au Théâtre Piccolo, on la joue à Torino, à Bolzano, dans le nord de l'Italie. La gens, ils comprennent tous. Pourquoi c'est baroque? Donc, c'est la même mot, tu peux les répéter avec plusieurs des paroles et poser des mots.
Plusieurs mots.
Et c'est vrai que les physiques, les travaux physiques qu'on fait, ils aident beaucoup. J'adore la langue de Jean-Baptiste Basile. Elle est très difficile, même pour moi. Mais toi, dans les spectacles, il y a 7 jours que les rois ils demandent quel aurait-il. Et il dit d'une manière très poétique, parce que dans tous les contes de Basile, il y a 3 ou 4 fois, pour chaque conte, qu'il parle de quel aurait, en manière très très poétique, avec des imagines énormes. Et donc, je trouve ça vraiment très poétique, très poétique.
Dernière question, Thomas.
Ce baroque, il est très, oui, très présent. Moi, j'ai souvenir, dans ce que j'ai pu étudier, que la Sicile a été ravagée en 1687 par un grand tremblement de terre, et que justement, tout a été reconstruit à la mode de l'époque, c'est-à-dire le baroque. Et j'ai l'impression que c'est ce qui unit en même temps Basile et avec Emma Dante. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui se parle, quoi.
Oui, parce que on a vécu dans les baroques. C'est même un baroque des fois posticcio, non? C'est un baroque posticcio.
Posticcio.
C'est posticcio. C'est
faux. Apocryphe. Faux.
Caricatural.
Si, caricatural, faux. Mais c'est les baroques de notre langue, de la manière avec laquelle quand on parle, on gesticule, de la cassata sicilienne, non? Qui est hyper baroque, c'est un gâteau sicilien, beaucoup, beaucoup de couleurs. Del cannolo sicilien, beaucoup, beaucoup de couleurs, de la crème. Et donc, on l'a dans les DNA, cette
baroque.
Et c'est même un truc dramatique, parce que c'est comme un masque. C'est comme à masquerer la tristesse, la pauvreté.
La pauvreté.
La pauvreté qu'il y a au-dessus.
Ah oui.
Merci beaucoup, Carmine, d'être été avec nous ce soir. Alors, on vous invite à aller voir la pièce qui joue jusqu'au 29 février, donc demain et après-demain au, oui, Théâtre de la Colline. Oui. Ne la ratez pas.
Je vous
pas.
Remercie les Théâtres de la Colline aussi.
Oui.
Et Wajdi Mawad,
oui,
qui nous a invités, toute la trilogie et tout notre spectacle, donc, et toute la France et la ville de Paris. On joue beaucoup sur les Français, sur la nourriture française, et on adore la France.
Oui. Mais nous, on est très contents de, ouais, de vous voir souvent à Paris, et revenez vite. Oui. Revenez vite, on a besoin de vous. Merci beaucoup, Carmine.
Merci, merci. Merci.
Un sogno la vita che passa. farsi gravita, che breve il gioire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non val medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non si trova modo di sciogliere sto nodo, non vale fuggire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Comune statuto, non vale l'astuto, stu colpo schernire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Si muore cantando, si muore suonando, la cetra o zampugna, morire bisogna, morire bisogna, morire.